Et c'est l'heure d'accueillir Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
La guerre dans la bande de Gaza est entrée ce matin dans son sixième mois.
Un désastre humain qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts est devenu aujourd'hui une crise humanitaire cataclysmique dans le territoire palestinien, assiégé et frappé notamment par la famine. On écoutera par ailleurs les premiers extraits d'un entretien posthume d'Alexei Navalny, d'autant plus troublant que l'opposant russe s'y montre déterminé à poursuivre son combat contre Vladimir Poutine à n'importe quel prix, y compris donc celui de sa vie. À suivre également la crise en Haïti, on en parlera avec notre invité aujourd'hui, Romain Lecourt, grand maison, docteur en sciences politiques. L'actualité en France, on essaiera de comprendre à quoi correspond le vaste plan de réduction des dépenses publiques annoncé par le ministre de l'économie, 10 milliards en 2024 et encore 20 milliards supplémentaires en 2025. Enfin, le mois de février vient compléter une série de 9 records mensuels consécutifs de hausse des températures sous l'effet notamment de la poursuite des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, on le verra, du phénomène climatique El Niño. Depuis l'attaque terroriste sanguinaire lancée par le Hamas le 7 octobre dernier et la guerre de représailles sanglantes déclenchée par l'État hébreu, 1160 Israéliens et 30 800 Palestiniens ont été tués et demain, la liste se sera très probablement encore allongée. Cette guerre dévastatrice entre aujourd'hui dans son sixième mois, au total 22 semaines d'horreur également pour les otages et tout autant de journées de cauchemar pour leurs proches. La mécanique du chaos au Proche-Orient a mené ni plus ni moins qu'à un bain de sang, sans oublier cette crise humanitaire criminelle de devenu désormais le quotidien de la très grande majorité des Gazaouis, livrés à eux-mêmes, oubliés de tous ou presque sauf de la mort, laissés au chaos, jetés aux maladies et à présent abandonnés à la faim. Les précisions de Christian Chénon.
L'ONU met en garde contre un risque de famine imminent. Le secteur de la pêche est décimé, les installations agricoles, notamment les serres, sont endommagées, l'eau courante au robinet est devenue saumâtre. Résultat, un enfant de moins de 2 ans sur 6 souffre de malnutrition aiguë à Gaza, selon les Nations Unies. Une situation catastrophique, confirmée par Jean-Pierre Delaumier, directeur adjoint des opérations de l'ONG Handicap International, qui revient d'une mission à Rafah.
Il y a une extrême insécurité alimentaire. Les gens essayent de s'approvisionner dans de petites échoppes qui sont construites ici ou là, qui vendent des boîtes de conserve, mais c'est très, très limité. Quelques fruits et légumes, surtout des légumes, mais d'une quantité infinitésimalement trop petite. Il y a aussi quelques distributions qui ont lieu. Sur les 600 camions qui entrait à l'intérieur de la bande de Gaza avant le 7 octobre. Aujourd'hui, on convient qu'il y en aurait une moyenne de 90. La solution, c'est de pouvoir obtenir donc un cessez-le-feu qui permettra à l'aide humanitaire qui est sur place, juste là, on la voit, quand je monte sur le toit de nos bureaux, je vois la frontière, je vois l'Égypte. Et les camions sont là.
Dès qu'un chargement d'aide pénètre dans l'enclave palestinienne à Rafah, ce sont des scènes de chaos. Les gens affamés se précipitent pour bloquer les camions et tenter de récupérer un peu de nourriture. Pour les Gazaouis, manger est devenu une obsession quotidienne.
Baptisé True Confidence, son nom ne l'aura pas pour autant protégé d'un ténébreux destin. Hier, un navire marchand battant pavillon de la Barbade a été visé par un missile balistique venu du Yémen. 3 membres d'équipage ont été tués, au moins 4 autres blessés, dont 3 dans un état critique. C'est là la première attaque mortelle directe des rebelles Houthis qui depuis plusieurs mois déjà en soutien, disent-ils, à Gaza, multiplient les attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. 2 passages maritimes majeurs pour le commerce mondial.
On en vient à cette possible sortie de crise au Sénégal.
Les électeurs devraient pouvoir choisir leur 5e président à la fin du mois. Un degré de confusion persiste toutefois sur la date précise. Quand les autorités annoncent que le premier tour se tiendra le 24 mars, le Conseil constitutionnel l'a lui fixé au 31. Quoi qu'il en soit, le scrutin aurait lieu, en tout cas avant l'expiration officielle du mandat de l'actuel chef d'État Macky Sall, qu'un large front de l'opposition comme de la société civile soupçonne toujours de chercher à s'accrocher au pouvoir.
Et que dire à présent de la situation critique en Haïti?
Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU n'aura finalement pas fait guère mieux que de formuler son inquiétude après que des gangs armés qui contrôlent la majeure partie de la capitale, Port-au-Prince, ont annoncé vouloir renverser le chef du gouvernement. Coûte que coûte, comprenez, on risque de déclencher une guerre civile. Cela fait près d'une semaine maintenant que la violence liée aux bandes criminelles s'est brusquement intensifiée pendant l'absence justement du Premier ministre Ariel Henry qui s'était rendu au Kenya pour y conclure des négociations autour de l'intervention d'une force internationale. Bref, une crise politique et sécuritaire. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Romain Lecourt, grand maison, docteur en sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour monsieur. Bonjour.
Peut-être avant d'évoquer les ramifications politiques de cette crise, faut-il commencer par rappeler que celle-ci s'inscrit sur fond d'une crise humanitaire en cours depuis plusieurs années, qui s'est encore intensifiée au point que près de la moitié de la population est aujourd'hui en proie à une faim aiguë, c'est bien cela ?
Tout à fait. Il y a une crise humanitaire qui dure maintenant depuis plusieurs années. Vous avez probablement en tête, y compris le passé haïtien et le tremblement de terre. Sur les deux dernières années, la violence des gangs exercée par les gangs contre les populations est venue exacerber cela. Il y a près de 5000 morts en 2023 en Haïti, des centaines de milliers de déplacés. Et depuis les attaques dont vous parliez la semaine dernière, il y a 15 000 déplacés au minimum dans la capitale, ce qui est un chiffre absolument terrifiant.
Que sait-on de ces fameux gangs armés donc qui font la loi, qui ont véritablement jeté Haïti au bord de l'abîme depuis plusieurs années déjà? Ces bandes criminelles sont-elles identifiées et quels sont leurs liens avec les élites politiques et économiques du pays?
Les gangs sont très identifiés, en dépit du fait qu'il y en ait énormément. On peut presque en recenser 200 aujourd'hui qui opèrent quasiment principalement dans la capitale. Il y a des groupes qui sont petits, autour d'une quinzaine de membres. Il y a des groupes qui sont très grands, autour de 1500-1700 éléments armés qui opèrent pour eux. Ils s'inscrivent, à mon sens, dans une longue trajectoire de groupes armés qui travaillent plus ou moins en lien pour ou avec le pouvoir politique et économique, pour, de façon assez classique, tenir des territoires, contrôler des élections, les gagner, réprimer des opposants, ce genre d'activité, avec une évolution criminelle majeure dans les dernières années, des gangs qui se tournent vers des économies beaucoup plus rentables, l'extorsion, le checkpoint, le kidnapping, le trafic de drogue, le trafic d'armes, et qui prennent aujourd'hui un contrôle social et territorial très fort qui, à mon sens, fonde leur pouvoir politique.
S'agissant de politique, justement, l'accord qui plaçait le Premier ministre Ariel Henry à la tête du pays est arrivé à son terme, c'était le 7 février. Il est par ailleurs contesté par une partie de la population. On a bien compris que l'État a perdu le contrôle de pans entiers du pays. De quelle légitimité dispose encore le Premier ministre ?
Elle est faible, vous l'avez dit. Ariel Henry, il faut le rappeler, n'a jamais été élu. Il a succédé de facto au président précédent qui a été assassiné dans son lit en 2021. Cette légitimité, au départ, elle est faible. Sa légitimité est venue s'écrouler petit à petit. Une série d'accords politiques avait mené à son idée de départ le 7 février 2024, donc il y a 3 semaines. Il n'est pas parti. Et juste avant le lancement des attaques, sans que j'y voie forcément une coïncidence ou une corrélation, il a annoncé des élections, finalement, pour août 2025, laissant entendre qu'il serait là jusqu'en août 2025, ce qui, à mon avis, a quand même envoyé un message extrêmement fort, une déflagration politique très forte qui marque, je pense, les violences dans lesquelles on se trouve encore aujourd'hui.
Cette crise de la sécurité a placé aussi les États-Unis au cœur de la lutte pour le pouvoir qui secoue le pays. Rappelons tout d'abord qu'Ariel Henry, justement, se trouve actuellement à Porto Rico, qui est un territoire américain. Et hier, la porte-parole de la Maison-Blanche a marqué ses distances avec le Premier ministre haïtien en l'appelant à accélérer la transition politique.
Il faut bien comprendre que depuis près d'une petite centaine d'années maintenant, en Haïti, en termes politiques et économiques, il se passe assez peu de choses sans que les États-Unis soient impliqués d'une façon ou d'une autre. L'expression consacrée qui est souvent utilisée en Haïti et aux États-Unis, c'est « Haïti, Port-au-Prince, c'est 90 minutes de Miami ». L'idée, c'est qu'on est dans ce que les Américains considèrent comme leur espace stratégique numéro un. On peut avoir Cuba en tête, c'est un peu la même expression en général que les Américains utilisent pour Cuba. Tout ce qui se passe à 90 minutes d'avion de Miami, c'est un peu notre responsabilité. Le poids des États-Unis dans ce qui se passe aujourd'hui est majeur. C'est les États-Unis qui coordonnent l'intervention non internationale du Kenya. C'est eux qui la financent en immense partie, ou devraient la financer en immense partie. Et c'est eux qui, d'une certaine façon, coordonnent, accélèrent, abandonnent ou non Ariel Henry. Et c'est à ça que lui s'accroche aujourd'hui.
Il y a une semaine, le secrétaire général de l'ONU insistait sur la nécessité de trouver une solution politique en Haïti, ce qui était une manière peut-être de reconnaître qu'une mission d'aide internationale ne suffira pas à elle seule à résoudre les problèmes institutionnels d'Haïti.
Bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'arrivée d'une force internationale est probablement une solution indispensable au rétablissement au moins de la sécurité dans la capitale, au moins une meilleure partie de la capitale et une vie à peu près normale pour les habitants. Il y aura néanmoins pas de solution tant que la communauté politique haïtienne, en l'occurrence, trouvera une voie de transition, trouvera un chemin vers un rétablissement d'un État un peu plus présent, et un jour ou l'autre des élections qui permettront de rétablir non seulement la primature, la présidence, mais le Parlement qui n'a pas été élu depuis maintenant près de 7 ans.
C'est bien compris. Merci Romain Lecourt, Grand Maison, docteur, je le rappelle, en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, d'avoir
Merci
répondu
à
notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
S'il me tue, cela ne changerait rien, car d'autres personnes sont prêtes à me remplacer.
Voilà ce que déclarait Alexei Navalny le 17 décembre 2020 à Berlin, un mois jour pour jour avant son retour en Russie et son arrestation qu'il conduira finalement à la mort dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique le 16 février dernier. Ce matin, LCI et le journal Libération publient les extraits d'une vidéo jamais diffusée. La rencontre donc entre l'opposant russe et un élu européen, rapporteur de l'enquête sur l'empoisonnement qui avait failli coûter la vie à l'époque à la Bête Noire de Moscou, un entretien posthume donc, dans lequel Alexei Navalny revient notamment sur la surveillance du Kremlin et se montre, Nathanaël Charbonnier, déterminé à poursuivre à n'importe quel prix son combat contre Vladimir Poutine.
Le quotidien Libération titre « Alexei Navalny, l'entretien posthume. S'il me tuait, ça ne changerait rien ». Des propos prémonitoires qui font froid dans le dos tellement Navalny est conscient de ce qui va lui arriver. C'est d'ailleurs sa force, pouvoir parler calmement, sereinement, sans que paraisse le moindre soupçon de peur, le moindre soupçon de crainte de Poutine et de sa dictature. Navalny, dès 2020, est conscient qu'il va mourir, il en connaît les raisons, tout comme il sait déjà que sa mort servira d'exemple et salira à jamais le Kremlin de Vladimir Poutine. Le document sonore et visuel de Libération est à ce titre éloquent. S'ils veulent me tuer, ça ne changera rien, dit Navalny. Car il y a d'autres personnes qui sont prêtes pour me remplacer dans mon combat. Au moins la moitié du pays souhaite que la Russie fasse partie des pays normaux de l'Europe. Et Poutine fera tout ce qu'il peut pour repousser cette idée et les partis qui la défendent. Et Navalny de tout décortiquer, sa tentative d'empoisonnement, la surveillance dont il a été victime dès 2013 après son succès au municipal de Moscou, et surtout la haine de Poutine qui n'a jamais, durant toutes ces années, prononcé le nom de Navalny en public et qui en a fait son ennemi et son prisonnier personnel.
À quelques jours d'un déplacement à Kiev, mais surtout après avoir agité l'éventualité d'une présence militaire occidentale en Ukraine, Emmanuel Macron reçoit depuis ce matin tous les chefs de parti pour évoquer sa stratégie, le tout en amont d'un débat qui sera suivi d'un vote la semaine prochaine à l'Assemblée, puis au Sénat, une manière pour l'exécutif de replacer la guerre au cœur des prochaines européennes dont la campagne macroniste sera lancée samedi lors d'un meeting à Lille. Sans surprise, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, seul en lice, a reçu ce matin l'aval de sa famille politique conservatrice, le PPE, pour un second mandat à la tête de l'organe exécutif de l'UE.
Cette question à 12h43 sur France Culture. La Banque Centrale Européenne va-t-elle prolonger son cap monétaire restrictif ?
Incitée à rester prudente face non seulement au recul, disons modéré, de l'inflation, mais aussi à l'impatience grandissante des investisseurs, la BCE devrait a priori décider de maintenir ses taux à leur niveau actuel, un positionnement qui pourrait contraster d'ailleurs avec celui de la réserve fédérale américaine qui elle tranchera sur ses taux 15 jours plus tard. Tandis que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne cesse de lancer des appels à maîtriser le déficit public, les économies de budget annoncées par le gouvernement ne font sans doute que commencer après avoir déjà annoncé, c'était le mois dernier, 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État en 2024 et repousser l'idée d'une hausse des impôts. Bercy avance à présent le chiffre de 20 milliards d'économies supplémentaire en 2025. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
C'est là un tour de vis extrêmement important et même plus fort donc que les 20 milliards annoncés hier.
Et oui, pour bien comprendre ce que représentent ces milliards d'économies qui se succèdent depuis quelques semaines, il faut savoir par rapport à quoi, par rapport à quel budget voté, on va les faire. Quand les lois de finances et de sécurité sociale ont été votées fin décembre, il était prévu que les dépenses État plus Sécu soient de 1600 milliards d'euros en 2024. On nous annonçait alors 12 milliards d'économies en 2025 et hier on est passé à 20. Mais il faut y ajouter les 10 milliards d'économies sur les dépenses de l'État dès 2024 qui viennent de passer par décret et qu'il faudra aussi trouver en 2025. Voilà pourquoi, en réalité, on est passé en quelques semaines de 12 à 30 milliards de dépenses annoncées en moins pour 2025. 30 milliards à trouver, ça n'est pas rien, mais Bercy relativise en rapportant ce chiffre au budget total de la Sécurité sociale et de l'État, ce qui fait fait un peu moins de 2% d'économies à trouver. À ce stade, on ne sait bien sûr absolument pas ni comment ni où ils seront trouvés. Les deux ministres ont bien lancé quelques idées. Bruno Le Maire, ministre des Finances, s'interroge sur les transports médicaux qui sont actuellement pris en charge par la Sécurité sociale. Avant cela, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, avait évoqué les prestations sociales et de retraite qui aujourd'hui sont indexées sur l'inflation et que l'on pourrait désindexer. Mais comme les retraités forment le socle des électeurs de la majorité, l'Élysée a vite fermé la porte à ce débat. Ce qui paraît sûr, c'est qu'avant les élections européennes, on n'ira donc pas plus loin dans les détails. Et c'est d'ailleurs assumé par Bercy, qui annonce une nouvelle discussion budgétaire au printemps, donc après ces élections.
Merci Marie Viennot. Après le Sénat, l'Assemblée a approuvé hier à l'unanimité en première lecture une proposition de loi visant à reconnaître les préjudices subis par les personnes homosexuelles du fait des lois discriminatoires en vigueur en France entre 1942 et 1982. L'Assemblée a notamment rétabli le principe d'une réparation financière pour toutes les personnes condamnées pour homosexualité. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Hier, dans son propos introductif, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a tenu par commencer à demander pardon aux victimes.
Discrimination, c'est le mot qu'il a utilisé, c'est le mot qu'il convient d'utiliser pour évoquer ce qui se passait pour les homosexuels français avant 1982. Bien souvent, on parle de criminalisation, c'est un abus de langage. La réalité, c'est que l'homosexualité a été dépénalisée en France, non pas en 1982, mais en 1791. Avant les années 80, il s'agit de discrimination, principalement à deux niveaux. D'abord, au niveau de l'âge de la majorité sexuelle. Elle est de 15 ans pour les relations hétérosexuelles et de 21 un an puis 18 ans pour les relations homosexuelles. Et c'est Robert Badinter, alors garde des Sceaux, qui alignera les deux majorités sexuelles, homosexuelles et hétérosexuelles, à 15 ans en 1982. Autre discrimination, elle concerne l'outrage public à la pudeur. S'il était commis par deux personnes de même sexe, la répression pénale était aggravée. Cette autre discrimination sera supprimée en 1980 sous le gouvernement de Raymond Barre. Il y a donc des personnes homosexuelles en France qui ont été victimes de discrimination très spécifique. Plus de 40 ans après l'abrogation de ces lois et après les ravages du sida dans la communauté homosexuelle, peu de ces personnes sont encore vivantes, mais certaines d'entre elles témoignent de l'importance de ces réparations financières approuvées par l'Assemblée, comme cet homme condamné pour outrage public à la pudeur lors d'une descente de police dans un bar gay parisien en 1977. Selon lui, on ne peut pas réparer une faute sans qu'il y ait réparation financière. L'idée fait l'objet d'un très large consensus chez les députés. Les 331 élus présents dans l'hémicycle ont voté pour.
Merci Antoine Marette. L'affaire des faux espions de Renault, cette histoire d'espionnage vieille de près de 15 ans, inventée de toutes pièces mais qui a tout de même conduit au licenciement de trois cadres du constructeur automobile, connaîtra enfin cet après-midi son épilogue judiciaire avec la décision attendue du tribunal correctionnel de Paris. Cette histoire-là, en revanche, n'a malheureusement rien d'une fiction et d'ailleurs les verdicts successifs qui tombent avec une régularité aussi implacable qu'accablante en témoignent. Depuis juin dernier, chaque mois a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, soit une série de 9 records mensuels consécutifs. Véronique Robérod, bonjour.
Bonjour.
Alors cela s'explique évidemment par le dérèglement climatique d'origine humaine, mais pas seulement, puisque le phénomène météorologique El Niño, qui réchauffe les eaux de surface, contribue lui aussi à l'augmentation des températures.
Oui, et même si le phénomène El Niño a atteint son pic au mois de décembre dernier, il n'a pas été en plus aussi intense que les précédents, il a alimenté la hausse des températures et a contribué à réchauffer les eaux de surface de la mer. Et si El Niño est en train de s'affaiblir, en ce moment, Copernicus, donc le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, fait le constat que les températures de l'air au-dessus des océans restent à des niveaux anormalement élevés. Élevés dans les airs et dans les mers, la température des océans a donc atteint un nouveau record le mois dernier, donc en février, avec 21,6 degrés. Le précédent record était de 20,98 degrés. Il avait été établi en août 2023.
Et cette hausse n'est évidemment pas sans conséquence, en particulier sur la vie marine.
Une mortalité massive d'animaux marins et de plantes a été enregistré à la suite de vagues de chaleur océanique. Un exemple avec la disparition massive des crabes des neiges de l'Alaska dans la mer de Bering. Leur population est passée d'environ 11 milliards à moins de 2 milliards d'individus en l'espace de 4 ans. L'État américain de l'Alaska a dû annuler la saison de pêche aux crabes des neiges pour la première fois, il y a 2 ans de cela. Il y a aussi le blanchiment des coraux qui, à ce rythme-là, seront tous morts en 2100. Le déplacement d'espèces marines à la recherche d'eau plus froide et là donc la perturbation perturbations des chaînes alimentaires. Et puis la hausse des températures marines peut aussi accroître l'acidification des océans et perturber les courants qui influencent nos conditions météorologiques avec des dégâts sur Terre cette fois-ci et des phénomènes météo beaucoup plus intenses.
Merci Véronique Robert-Roth. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par une dégradation par le sud-est du pays qui donnera quelques gouttes de pluie. Partout ailleurs, le ciel composera entre éclaircies, passages nuageux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.